Alors, si nous avons, Jean-Philippe et moi-même, choisi cette histoire de Daniel, c'est bien parce que elle ressemble tout à fait à notre monde d'aujourd'hui, en beaucoup de points. Non pas que nous ayons la volonté d'écrire tous les éléments prophétiques que recèle ce livre, cela a été fait dans beaucoup d'études que les uns ou les autres nous pouvons lire et relire, mais plutôt examiner ce qu'a été un jeune homme, Daniel. Je dis bien un jeune homme, pas un vieillard à barbe blanche, un jeune homme qui a été fidèle, très fidèle à son Dieu. Alors c'est un contexte un peu particulier que ce livre de Daniel. L'histoire de ce prophète unique en son genre, parce qu'il est vraiment unique dans l'Ancien Testament, se situe à l'époque de la transportation ou de la déportation, comme vous voudrez, du peuple d'Israël en Babylonie. Et cela se passait en 606 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas hier. Il y a donc 2600 ans environ. Alors pourquoi cela? C'est à la suite des derniers rois d'Israël qui faisaient ce qui était vraiment très mauvais aux yeux de l'Éternel. L'Éternel n'a pas pu supporter cela. Et ce peuple a été transporté. Et dans cette transportation, on verra qu'il y a eu des hommes fidèles. Ils auraient pu être anéantis complètement dans ce pays de Babylonie, l'Irak d'aujourd'hui, entre l'Irak et l'Iran, et disparaître. Eh bien non, Dieu voulait toujours s'occuper de son peuple, comme il veut s'en occuper encore. Et nous savons qu'après l'enlèvement de l'Église, il va s'en occuper encore, en grâce, pour qu'il vienne vraiment au Messie, au Seigneur Jésus. Mais en attendant, les voilà partis là-bas. Et bon, Jérusalem est brûlée par le feu. Tous les trésors de la maison de l'Éternel, ces vases extraordinaires qui servaient au culte, tout cela a été transporté dans les trésors de Babylone. Ils ne servaient plus à rien. C'était fini. Plus de temple, il est détruit, c'est fini. Le peuple d'Israël, presque anéanti. Eh bien Dieu, comme je le disais, va se servir de cela. Il y aura trois transportations, je ne donne pas les détails. Elles vont durer 18 ans au total, jusqu'en 588 avant Jésus-Christ. Mais le point le plus important qu'il faut que nous retenions bien, c'est que Dieu ôte désormais son trône du milieu de son peuple terrestre. C'est fini. Dieu était là présent dans le temple, la nuée se présentait, etc. Les enfants d'Israël pouvaient se rassembler, se réunir et célébrer les fêtes lévitiques. Là, c'est terminé, il n'y a plus rien. La désolation la plus complète, c'est terminé. Et où va ce peuple? Dans un pays idolâtre, entièrement idolâtre. Et alors cela a été un tournant pour l'histoire. Ne l'oublions pas, c'est aussi un point important. Ça a été un tournant pour l'histoire parce que ce gouvernement du monde, et donc qui était administré par ce peuple, Israël, est transféré maintenant aux nations, c'est-à-dire à tous les pays du monde, aux nations. Et cette histoire se continue, cette histoire des nations, se continue encore aujourd'hui et se continuera jusqu'après l'enlèvement de l'Église. Donc cette histoire de Daniel est actuelle aujourd'hui. Alors elle se terminera au moment où Christ jugera le dernier empire, c'est-à-dire la puissance romaine reconstituée, je dis moi, en mondialisation, pour utiliser un terme d'aujourd'hui. Le livre de Daniel couvre donc cette très longue histoire. Mais Dieu, dans de telles circonstances, veut tirer un peuple pour lui. Alors, déjà, Ésaïe avait prophétisé, je vais lire ce passage, Et puis après, lire quand même le premier chapitre de Daniel, même si nous n'allons pas lire tout le livre. Ésaïe avait prophétisé à ce sujet-là. Qu'avait-il dit ? Au chapitre 39 de son livre et au verset 6. Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici des jours viendront, ou viennent, où tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera transporté à Babylone. Voilà donc, c'était clairement dit. Sera transporté à Babylone. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, rien. Et on prendra de tes fils, on va parler de Daniel, on prendra de tes fils qui sortiront de toi, que tu auras engendré, et ils seront eunuques dans le palais du roi de Babylone. Vous voyez, toute cette histoire de Daniel est bien précisée là. La Bible a comme ça plein de prophéties qui sont donc annoncées à l'avance et puis qui se réalisent parfaitement. Cela a été le cas de celle-ci où donc le peuple a été transporté à Babylone. Mais Dieu, dans de telles circonstances, que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va laisser tomber complètement ? Non. Dieu veut tirer un peuple pour lui. Au milieu de cette ruine, au milieu de l'idolâtrie de Babylone, il veut tirer un peuple pour lui. Un résidu, comme on l'appelle parfois, un résidu fidèle symbolisé par ce Daniel. C'est sûr qu'il n'y aura pas que Daniel, il y en aura d'autres, bien sûr. Afin qu'un témoignage pour Dieu et à sa gloire soit maintenu. Dieu veut se maintienne toujours un témoignage à sa gloire. Si faible soit-il, il l'a fait dans les temps anciens, il le fait encore aujourd'hui. Et ne croyez pas, comme je l'ai entendu parfois, que les chrétiens vont bientôt disparaître, compte tenu qu'en France, il n'y a pratiquement plus enfin, il y en a encore, heureusement, mais le pays est devenu déchristianisé. Il n'est plus christianisé, malheureusement, en général, hein, je parle, bien sûr, hein, et qu'il ne pourrait plus y avoir de témoins, etc., que ça va être fini, terminé, que tout ce qu'on voit, la corruption, l'idolâtrie, dans tout, eh bien non, Dieu se réserve toujours un peuple pour lui. Soyons, chers frères et sœurs, chers amis, vraiment de ce peuple qui est pour Dieu, qui aime Dieu, qui veut l'aimer, qui veut le servir, qui veut servir le Seigneur et l'attendre chaque jour jusqu'à son prochain retour. Car nous attendons quoi ? Nous attendons le retour du Seigneur Jésus qui va venir chercher son Église. Nous n'attendons rien d'autre. Cette histoire de Daniel qui va se terminer après ne nous concerne même pas du tout, puisque c'est le Seigneur qui va prendre ça en main. Ce n'est pas nous, nous ne serons avec lui pour toujours dans le ciel. Donc voilà. Et puis, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est Jérémie qui dit cela, vous le chercherez si vous voulez, au chapitre 1 et au verset 12. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et il va utiliser ce roi impie, Nebuchadnezzar, dont on va parler tout à l'heure, il va l'utiliser justement pour que ses plans se réalisent au travers de ce fidèle serviteur qu'est Daniel. Alors, je donne deux mots sur le plan du livre de Daniel. Chapitre premier que nous allons lire maintenant, c'est le résidu fidèle à Babylone. Chapitre 2 à 6, c'est la deuxième partie, c'est le temps des nations et leurs caractères moraux. Ça, c'est donc Jean-Philippe qui en parlera à propos des visions de Daniel. Du chapitre 7 au chapitre 11, la troisième partie, où là c'est l'histoire prophétique des quatre monarchies. Et puis au chapitre 12, quatrième partie, la grande tribulation et la fin des temps des nations. Et à ce moment-là, l'Église, comme je l'ai dit, ne sera plus sur la terre. Livre de Daniel. Alors je lis maintenant ce chapitre premier. La troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra en sa main Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, et il les fit apporter dans le pays de Shinar, dans la maison de son Dieu. Et il fit porter les ustensiles dans la maison du trésor de son Dieu. Et le roi dit à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les fils d'Israël et de la semence royale et d'entre les nobles, vous voyez, qui ne choisissaient pas n'importe qui, des jeunes gens en qui il n'y a eu aucun défaut, et beau de visage, et instruit en toute sagesse, et possédant des connaissances, et entendu en science, et qui fussent capables de se tenir dans le palais du roi, et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion fixe des mets délicats du roi et du vin qu'ils buvaient, pour les élever pendant 3 ans, à la fin desquels ils se tiendraient devant le roi. Et parmi eux donc il y avait d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le prince des eunuques leur donna des noms. À Daniel il donna le nom de Belteshazzar, et à Anania celui de Shadrach, et à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Et Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait point par les mets délicats du roi et par le vin qu'il buvait. Et il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques. Et le prince des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi, mon seigneur, qui a prescrit votre nourriture et votre boisson, car pourquoi verrait-il vos visages plus tristes que ceux des jeunes gens de votre âge, et vous exposeriez ma tête auprès du roi ?» Et Daniel dit à l'intendant que le prince des eunuques avait établi sur Daniel, Ananias, Michaël et Azaria, « Éprouve, je te prie, tes serviteurs, 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, et on regardera en ta présence nos visages et le visage des jeunes gens qui mangent les mets délicats du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu verras. » Et il les écouta dans cette affaire, et les mit à l'épreuve 10 jours. Et au bout de 10 jours, leur visage avait meilleure apparence et était plus gras que ceux de tous les jeunes gens qui mangeaient les mets délicats du roi. Alors l'intendant ôta leurs mets délicats et le vin de leur boisson et leur donna à eux aussi des légumes. Et à ces jeunes gens, aux 4, Dieu donna de la science et de l'instruction dans toutes les lettres et dans toute la sagesse. Et Daniel avait de l'intelligence en toute vision et dans les songes. Et à la fin des jours où le roi avait dit de les amener, le prince des eunuques les amena devant Nebuchadnezzar, et le roi parla avec eux, et entre eux tous, il n'en fut trouvé aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et ils se tinrent devant le roi, et dans toutes les choses qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, au sujet desquelles le roi les interrogea, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les devins et enchanteurs qui étaient dans tout son royaume. Et Daniel fut là jusqu'à la première année du roi Cyrus. Je m'arrête là. Voilà, donc en introduction, on a pu voir ce qu'il en est donc de cette déportation à Babylone. En 7 points, nous allons examiner cette histoire de Daniel. En 7 points, et puis après Jean-Philippe nous parlera plus des visions. Alors, deuxième partie, histoire de Daniel lui-même. Daniel est un jeune homme, je l'ai dit tout à l'heure, je le reprécise, ne pensons pas que c'était un vieillard qui avait beaucoup d'expérience, etc. Non, c'était un jeune homme, mais un jeune homme qui allait s'engager totalement pour son Dieu, totalement. Pas une partie seulement de lui-même, mais vraiment totalement. Et c'est un homme dont il est dit, ce jeune homme, qu'il est bien aimé de Dieu. On trouve cela, vous le chercherez, au chapitre 10 et au verset 11. C'était un bien-aimé de Dieu. Dieu l'avait choisi pour être un témoin là à Babylone. Un bien-aimé de Dieu. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la parole dont il est dit que Dieu les nomme des bien-aimés. Je crois qu'il y en a 3. Il y a Timothée en tout cas, Moïse peut-être. Et voilà, 3, pas plus, qui sont nommés bien-aimés par Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas des bien-aimés. Bien entendu que nous le sommes, puisque nous sommes des enfants de Dieu sauvés par grâce, grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus, et nous sommes évidemment des bien-aimés. Mais nommément, cela a été dit, et ça a son importance, nous ne dirons pas plus là-dessus. Donc le peuple est à Babylone, dans le pays de Shinar. Ah, c'est quoi ça, Shinar? Le pays de Shinar, dont nous parle Genèse. Tiens, on va le lire, Genèse 11, juste quelques versets. Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles, et il arriva que lorsqu'ils partirent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar. Ils y habitèrent, et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » Et ils avaient la brique pour pierre, et ils avaient le bitume pour mortier. Il y a encore là le bitume aujourd'hui. Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux. » Et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de la terre. Et tout cela, je ne dis pas le reste, c'est la tour de Babel. Et alors là, il y a les principes mêmes de Babylone, de ce pays de Shinar, qui sont l'orgueil, la corruption et la mort, symbolisés par ce bitume qu'ils utilisaient comme mortier, noir comme la mort. Voilà, l'orgueil, la corruption, la mort. Et voilà notre Daniel qui se trouve dans ce pays de Shinar. Et on sait cette histoire aussi du fameux manteau de Shinar qui avait été volé et tout, qui venait aussi de là, de cette région où il y avait des richesses, sans doute, bien sûr. Mais c'était un pays de corruption. C'est quoi pour nous aujourd'hui? Parce que nous voulons toujours faire le parallèle. C'est le monde dans lequel nous sommes, rien de plus, rien de moins. Il n'a pas changé. Il a toujours ces caractères-là d'orgueil. On le voit autour de nous. Il suffit de parler avec des personnes qui constamment sont là à vous mettre en avant leur personne, à vous mettre en avant leur personnalité, avoir un orgueil extraordinaire. Ça arrive, et faisons très attention à cela. Et puis la corruption, bah évidemment la corruption, partout. On trouve cela dans ce monde, partout, partout. Et puis la mort, bien sûr. Mais la mort laquelle? La mort spirituelle, la mort matérielle, nous la connaissons tous. Nous n'y échappons pas. Parce que nous sommes tous de la race d'Adam, et tu mourras certainement, Dieu avait dit à Adam. Donc ce n'est pas ce problème-là, c'est la mort spirituelle. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu sont morts spirituellement parlant, il faut bien le dire. Et nous prions tous les jours pour qu'il y ait encore des humains qui viennent au Seigneur Jésus, qui soient sauvés, qui reçoivent le Seigneur comme leur sauveur et leur Seigneur. Prions pour cela tous les jours. Et s'il y en avait un ici qui n'est pas encore sauvé, nous lui supplions, venez à Jésus, le Sauveur, qui vous apportera la joie, la paix, le bonheur pour l'éternité, dans la connaissance de Dieu lui-même et de tous ses trésors qu'il veut vous déployer pour que nous soyons tous heureux avec lui et bientôt dans son ciel. Donc, voilà, ils sont au pays de Shinar, qui est le symbole de l'opposition à Dieu. Et au milieu de ce système idolâtre, quatre jeunes Hébreux sont distingués. Ils ne sont pas bien nombreux, hein. Quatre seulement. Peut-être y en avait-il d'autres, la parole ne le dit pas. Mais il y en avait au moins quatre. Quatre jeunes Hébreux qui sont distingués comme des témoins de Dieu. Et c'est ça qui est beau. Supposez que nous soyons dans un pays où il n'y ait plus un seul chrétien. Ce n'est pas heureusement encore le cas en France. Nous sommes heureux de pouvoir nous réunir librement. Et merci à Dieu, merci au Seigneur d'avoir cette liberté de pouvoir nous rencontrer et qu'il y ait encore des enfants de Dieu. C'est une grâce extraordinaire. Eh bien, supposez qu'ils soient les quatre seuls là-bas dans ce pays de Shinar. C'était peut-être le cas, je ne sais pas, des témoins. En tout cas, il n'est parlé que d'eux. Eh bien, c'était quand même extraordinaire que ces quatre jeunes gens soient des témoins aussi fidèles de Dieu dans ce pays idolâtre. Donc, en faisant venir, que fait Nebuchadnezzar? En faisant venir ces quatre jeunes, il les a choisis, vous avez vu, hein, beau de visage, je l'ai lu, hein, etc., entendu en science, on parlait comme ça à l'époque, hein, qui avait beaucoup de connaissances, donc qui était capable de travailler utilement pour la progression de ce pays, bien entendu. Que cherche le monde d'aujourd'hui? Il cherche aussi des chrétiens qui soient capables de prendre des postes, parfois élevés même, pour mener à bien des missions, avec beaucoup de sérieux, avec talent, avec zèle, etc. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas différent. Ils cherchent la même chose, exactement la même chose. C'est pour ça que nous faisons toujours la connexion avec le monde d'aujourd'hui. Parce que cette histoire de Daniel, il dit, oh là, c'est vieux cette histoire. Non, toutes choses ont été écrites pour notre instruction. Nous n'oublions pas, à nous que les fins des siècles ont atteint. Donc Daniel est extrêmement actuel comme livre. Donc Nebuchadnezzar, il reçoit ces quatre jeunes avec d'autres pays peut-être, en tout cas de son pays. Et voilà, dans son palais. Et il désirait quoi faire? Donc s'entourer, comme je viens de le dire, d'une élite intellectuelle. Et il ne savait pas. Il voulait s'entourer pour lui, pour son bonheur personnel, pour ses plans personnels, mais pas pour autre chose, pour son orgueil surtout. On verra plus tard, dans les chapitres suivants, Jean-Philippe peut-être nous en parlera, l'orgueil de ce monarque. C'était extraordinaire, cet orgueil qu'il avait. Donc, il